session de théologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe à Rimaud, le 25 mai 1995, deuxième conférence.
Je continue. Ce regard rapide, n'est-ce pas? Ce que j'appelais ça en Suisse, le ski de printemps. Parce qu'on faisait le tour de la Suisse quand les neiges étaient déjà un peu fondues. Alors il reste des sommets. C'est l'avantage de l'histoire. C'est qu'il y a des quantités de choses qui descendent. C'est comme quelqu'un qui perd ses cheveux. Cette chose qui tombe, il reste le crâne où la neige demeure. Et là, c'est le ski de printemps. Et là, c'est une vision aérienne qu'on peut avoir. Ça aide beaucoup, du reste, ces choses-là. Après avoir fait une analyse, j'ai l'avantage à Fribourg de devoir enseigner la philosophie grecque, l'histoire de la philosophie grecque. Ce qui est palpitant. Voir les premiers balbutiements et de voir l'élaboration des mots qui après sont utilisés. Comment certains mots qui sont chargés de signification, le mot substance, ousia. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, vous voyez, c'est que beaucoup reviennent au grec. Les moyens, ça prouve qu'il existe. C'est la plus grande preuve de l'existence. C'est l'âme la même chose. On n'en parle plus. Un groupe de théologiens que je nomme pas parce que je les aime bien, ils sont sympathiques, mais de temps en temps ils disent des bêtises, comme tout le monde, on en dit tous. Ils m'avaient demandé, quand je suis revenu de Fribourg, de leur faire un cours sur l'âme. J'ai un topo sur l'âme. L'âme humaine, que je crois très profond, c'est très important. Bon, au point de vue philosophique, c'est capital. C'est toute la philosophie de Platon. On ne parle pas de l'âme avant Platon. Tandis que Platon, il parle de l'âme. Pourquoi? Sans doute le contact avec toute la grande tradition de l'Inde. Alors, est-ce un mythe ou est-ce un logos? Vous savez bien ce que Heidegger reprend tout le temps, le moutos et le logos. Est-ce un mythe quand les traditions religieuses parlent de l'âme, ou est-ce que c'est une réalité? Vous voyez comment la tradition religieuse, même si on la nie, est là, présente. Et ça, c'est très émouvant. De voir combien toute la philosophie grecque est imprégnée de ces traditions religieuses. Et alors ceux qui, en tant que rationnels, des athées veulent comprendre la philosophie grecque, ils n'y comprennent rien. Comment voulez-vous ? Il y a un fond, une référence, pas toujours explicite, mais souvent très explicite. Alors c'est important, au point de vue philosophique, de voir la naissance des mots. La naissance des mots qu'on utilise après, constamment. Le mot psyché, l'âme, le mot Dieu, à quel moment il intervient dans une recherche de vérité. Puisqu'on est tous d'accord que c'est la recherche de la vérité qui caractérise la philosophie. Ça, tout le monde. Alors on mettra sous le mot vérité des tas de choses différentes, mais c'est le mot est porteur quand même de quelque chose. Alors, c'est intéressant de comprendre ce premier moment de la naissance de la philosophie. Je ne l'ai pas ici, mais j'aurais dû l'amener. Un livre qui montre tout le grand développement de la philosophie. On commence par l'Inde, puis la philosophie grecque. C'est Merleau-Ponty qui a fait ça, qui a ponctué ça, de façon astucieuse, intelligente. Je ne l'aurais pas ponctué comme ça, mais c'est intéressant de voir comment il le ponctue. C'est vraiment une vision aérienne qui est bien faite. Alors, quand la photographie est arrivée, on met la photo des philosophes, c'est intéressant. Quand il n'y avait pas la philosophie, il y avait la sculpture. Alors, on prend des bustes. C'est encore mieux, tu vois. Alors, la philosophie grecque, c'est le logos face. Au mythos, au mythe, aux traditions religieuses. Et c'est vrai, ça. C'est la conquête du logos sur le mythos. Une très belle lutte. Et c'est ça qui caractérise la philosophie grecque. Dans quelle mesure tous ces mythes de ces traditions religieuses, qui parlent de l'âme, qui parlent de Dieu, qui parlent des dieux, et c'est vrai, le pluralisme des dieux, l'Olympe, c'est un mythe. C'est difficile pour l'homme de concevoir un seul dieu, le monothéisme. Et ça a été, il faut bien se le dire, la grande découverte des philosophes face aux traditions religieuses. Parce que les traditions religieuses, ça charrie des tas de choses. Et les noms de dieux proviennent des traditions religieuses, c'est très curieux. Ça aussi, c'est un travail très intéressant à faire. Tous les noms de Dieu, les noms de tous les dieux, ça exprime quelque chose. Ça exprime comme l'inconscient profond que l'homme a de trouver un aîné. On n'aime pas d'être orphelin. C'est pas agréable d'être orphelin. On veut trouver quelqu'un. C'est une source. Et enfin, c'est cet appel constant vers Dieu. On le verra au terme. Mais c'est présent dans toute cette philosophie grecque. C'est pour ça que la philosophie grecque est si passionnante. Il y a donc une grande montée vers Platon, vers Aristote. Et au fond, recherche de la connaissance du réel, on voit que ça n'a pas de sens, la multiplicité des dieux. Parce que si Dieu existe, il peut être que la source première. Alors c'est Zeus, le dieu des dieux. Le dieu des dieux, c'est pour ça qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans la révélation, ces formules, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est pour montrer, au-delà de la multiplicité, l'unité. Alors c'est tout le grand problème de la multiplicité, l'unité, qui est un problème capital en philosophie. Mais pour certains, c'est cela qui permettrait le mieux de ponctuer la philosophie. Il y a quelque chose de juste. Le problème de l'un et du multiple est constant. Et alors quand c'est attribué à Dieu, vous comprenez, là, ça devient grave. Y a-t-il un seul Dieu ? Y a-t-il de multiples dieux ? Socrate, Platon, Aristote sont pour le monothéisme. Alors, ils acceptent pour le peuple, ils acceptent la multiplicité des dieux. Ils ne vont pas s'opposer à ça. Mais profondément dans leur cœur et dans leur intelligence, un seul Dieu, la bonté en soi, qui ne peut être qu'un en soi, pour Platon, l'acte pur pour Aristote, qui va beaucoup plus loin. Et il est un, il ne peut être qu'un. Mais là, il y a une très grande découverte. Là, c'est sûr que pour Platon et Aristote, reste, je dirais, pour tous les philosophes, tous, les grands, l'Himalaya philosophique, pas le Mont Blanc, hein, l'Himalaya. Le Mont Blanc, je ne sais pas, serait qui va chercher, tandis que, puis varie le Mont Blanc, tandis que l'Himalaya, c'est quelque chose. C'est de voir que le point de départ de Platon reste une sorte d'intuition, une sorte de révélation. On retrouve à peu près ce qu'on a vécu dans le temps. On faisait ça, la réminiscence, retrouver, si vous voulez, ce que, au plus intime de notre intelligence, on a vécu. Le vécu de l'intelligence. Mais le vécu de l'intelligence au moment où on était bien heureux, c'est le seul vécu intéressant du reste. C'est le vécu où tout a été merveilleux, on était à la suite des dieux. Le Phèdre montre ça admirablement. Et on retrouve ça. Et Platon, progressivement, il y a comme des failles dans la réminiscence. Et ça, c'est la critique. Le banquet, le Parménide. C'est très curieux. Et je crois que c'est sous l'influence du jeune Aristote. Mais ça, on ne le dira jamais. On ne dira jamais ça. Parce que ce serait situé Aristote beaucoup trop élevé d'avoir corrigé Platon. Alors que le rôle d'Aristote, c'est de corriger Platon. Vous voyez ? En recherchant la vérité, hein, c'est pas le premier, il cherche la vérité. Mais Platon est tellement grand que si on n'a pas un bulldozer pour montrer qu'il a des pieds d'argile, il n'arrivera pas. Et c'est pour ça que constamment, Aristote montre l'opposition. C'est pas parce qu'il est contre, il l'aime, parce qu'il cherche la vérité. Il a été obligé de le dire. Platon et la vérité, je les aime tous les deux. Mais la vérité plus encore. Bon, je n'insiste pas plus, parce que après Aristote, comme toujours quand il y a des grands sommets, on voit quelque chose de très différent. Ce n'est plus la recherche du transcendant. En gros, on peut dire ça. ce n'est plus la recherche du transcendant, de ce qu'il y a de premier. C'est beaucoup plus l'immanence. C'est très curieux. Il y a ces deux mouvements en philosophie grecque, très très nettement. Il avait une grande montée vers le transcendant. L'un, le bien en soi, l'acte pur. En gros, c'est ça. Et c'est la découverte de ces sommets. Et sitôt après Aristote, on retrouve des écoles éthiques différentes. La métaphysique est un peu oubliée. Et c'est l'homme qu'on regarde dans sa responsabilité, dans sa découverte de ce qu'il est, de sa personne. C'est un peu la recherche de la personne. Elle retrouve les grands courants éthiques, les stoïciens, les épicuriens, les aristotéliciens, et puis aussi Platon d'une certaine manière, et ses écoles, le stoïcisme. Regarde Dieu immanent. C'est très curieux et c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, après la transcendance, il y a comme, je ne dis pas une chute, mais une nécessité de retrouver Dieu au plus intime de nous. Sans faire de syncrétisme, le passage de l'ascension à la Pentecôte. Vous voyez bien, Dieu est au-delà de tout. Il passe le mur du son, assis à la droite du Père, mais on ne voit rien. Et le temps de l'Esprit Saint, au plus intime de nous. C'est très curieux de voir cette espèce de grande montée vers la transcendance et après l'immanence. Et c'est pour ça qu'on commence à parler de la providence. On va essayer de démystifier la Moïra, le destin. On va essayer de montrer que l'homme est capable quand même de se conduire et que s'il est fort, il est victorieux. Et ça explique tout le stoïcisme qui est au fond de la grande morale de Sparte, qui va partir dans l'essence du devoir, la conquête constante à l'égard des passions, et les passions deviennent l'ennemi numéro un dans le stoïcisme. Les passions sont mauvaises, et l'ultime avin du stoïcisme se fait quand on trouve un Épictète à Rome en l'an 50 après Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et qui dit que ce qu'il y a de plus grand, c'est de découvrir la volonté de Zeus et de l'accomplir. C'est curieux, Épictète. Il faut relire de temps en temps Épictète. Épictète, c'est l'esclave devenu philosophe. Venez. L'esclave devenu philosophe. Il s'est libéré parce qu'il était très honnête et qu'il devait faire parfaitement ce qu'on lui demandait de faire. Et il a réfléchi. Il a beaucoup réfléchi. Il arrive à une finesse étonnante. L'homme intérieur, l'homme extérieur que vous avez dans Saint Paul et qui est dans Épictète. Évidemment, tout à fait différemment, puisque Saint Paul, c'est sous le point de vue de la révélation. Et c'est Jésus. Et puis, peut-être, n'a pas à découvrir le Christ. Et il cherche la volonté de Zeus. Et pour lui, c'est Zeus. Donc, quand même, le Dieu unique. Être sous sa dépendance. Et cette morale du devoir, qui est la morale morale stoïcienne. C'est la morale du devoir. Il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus que de morale. Il y a l'inverse, l'opposé, la morale de la jouissance. Mais au très grand sens, c'est pas de la jouissance uniquement charnelle, c'est la jouissance intérieure, la joie de penser, la joie de contempler. Mais ce n'est pas ce qu'on contemple qui intéresse, c'est le plaisir qu'on a de contempler. Là encore, on comprend très bien ça. Pour avoir une image que j'aime beaucoup, que le père de Haut employait en disant « il y a le ronron du chat auprès du feu ». Vous avez enlevé le ronron sur sa tête, vous grignotez sa tête, puis il se met à ronronner. Et puis le vol de l'aigle, les deux types de raisons. Alors on voit très bien le vol de l'aigle, la contemplation qui regarde uniquement et qui est saisi par celui qu'on contemple. Et le ronron du chat auprès du feu, il est séduit par rien, si ce n'est par son ronron. Il est heureux de ronronner. Il est heureux d'être auprès du feu. Il est heureux de n'avoir rien à faire. C'est très joli. Zadine a exactement ça. Il y a vraiment, je dirais, Aristote, c'est le vol de l'aigle. Ça, je crois. Je crois qu'on n'a jamais été aussi haut. Le vol de l'aigle. Et puis alors, au contraire, la jouissance, l'éthique de la jouissance, qui fait qu'on est heureux de n'avoir rien à faire, et donc d'être un contemplatif. Si on n'a rien à faire, on est un contemplatif. Parce que les autres ont beaucoup de choses à faire. Et ils ne sont pas contemplatifs. Vous voyez, par la négation, on peut affirmer beaucoup de choses. Alors, le dernier grand grec dans la recherche de Dieu, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est Plotin. La philosophie grecque se termine dans une sorte de mystique. C'est une sorte de mystique. Plotin, c'est quelqu'un de très grand et de terriblement séduisant. Eh bien, Plotin essaie d'unir l'intériorité et la transcendance. C'est son grand problème. Et c'est pas étonnant parce qu'il arrive au terme de toute cette montée de philosophie grecque. Ce n'est pas du tout l'éthique qui l'intéresse. C'est vraiment le divin. C'est ça qui l'intéresse. C'est de pouvoir vivre les trois hypostases, la trinité plotinienne. Et comme c'est curieux. Alors, on cherche beaucoup à savoir si Plotin a eu des influences chrétiennes. Et je comprends très bien, et c'est très possible qu'il y ait eu des influences, qu'il y ait eu des liens mystérieux. Alors la Trinité plotinienne, elle est très nettement dans la ligne de Platon. Pour Plotin, Platon, ce n'est pas seulement un philosophe. C'est un être divin, quelqu'un qui a eu une révélation. Mais il canonise Platon. Ça, c'est, et il est là, lui, comme interprète de Platon. Alors, Platon, c'est la référence. Il utilise Aristote en le critiquant dans la lumière de Platon. C'est très curieux. Et c'est très intéressant de voir la critique de Platon par rapport à Aristote. soutiens, les Ennéades. Alors, la Trinité plotinienne, c'est l'un lié au bien, oui, c'est tout à fait Platon, lié par la dynamis, donc lié par la puissance. C'est très curieux. Tandis que pour Platon, je crois que l'un et le bien étaient liés par le beau. Alors, il y a les deux pôles, vous voyez, c'est très intéressant, ça. Que tu t'as la puissance. C'est pas l'être en puissance, mais c'est la puissance. On passe l'un ou bien, première aînée, première hypostase, deuxième hypostase, le point de vue du nous. Donc, l'intelligence. Le nous, l'être. Mais l'être est relatif à l'un. Le beau, l'éternité, seconde Ennéade, qui provient de l'un, qui provient du bien, et qui retourne au bien. Troisième Ennéade, l'âme. Et alors ensuite, alors ça c'est le domaine du divin. Voilà le divin. Hypostase éternelle. Et l'âme est unie au corps. Alors le corps, c'est la corruptibilité, c'est notre univers qui n'est plus une hypostase. Bon, c'est intéressant, vous voyez, de voir que toute la philosophie grecque, dans sa grande montée, se termine dans une sorte de philosophie purifie et qui sauve. La philosophie doit permettre à l'âme d'entrer en contact avec le divin, avec Dieu. C'est l'énosis, l'union. Ce n'est pas la contemplation. La contemplation, ce serait trop intellectuel. C'est l'énosis. C'est l'unité. Au-delà de la contemplation, c'est l'unité. Pour Aristote, la contemplation est le sommet. Pour Platon, la contemplation est le sommet. Pour Plotin, c'est l'unité. L'unité avec Dieu. Je ne dis pas la perte dans l'unité. Non. Les hypostases représentent vraiment des réalités divines. C'est le Dieu premier, unique, c'est l'un. Mais ce Dieu et source de l'intelligence qui est éternelle. Et l'intelligence est elle-même source de l'âme. Donc, il faut bien tenir cette unité. Je crois que c'est très important de comprendre comment la philosophie grecque se termine dans une mystique. Une mystique très intelligente. Et c'est beau, c'est grand, ça, de la noblesse. Ça se termine par quelqu'un qui est mystique en sens uni à ce qui est pour lui Dieu. Et vous retrouvez dans Plotin toutes les traditions religieuses présentes, assumées. Vous voyez, et c'est pas étonnant que par la mystique, on retrouve les traditions religieuses, parce que c'est le côté affectif. Et les traditions religieuses portent cela, au-dessus du logos. Ce n'est plus le logos pur. C'est pour ça que, pour ceux qui sont très saisis par le logos pur, Plotin, c'est quelque chose qui déjà déraille. C'est une pensée beaucoup plus dialectique que analogique. Parce que l'affectivité est très présente. Mais si on entre vraiment dans ce que représente Plotin, je crois qu'on peut dire que c'est le cri de soif de la philosophie grecque qui désire être uni au divin. On désire se diviniser. Et par l'énosis, le philosophe se divinise. Et cela se traduit dans l'extase. et cet absolu, c'est là, et c'est le mien, que nous portons en nous. Au plus intime de nous, il y a la marque de l'un. Au plus intime de nous, il y a l'intelligence. Et c'est pour ça que notre âme se purifie, rejoint l'intelligence. Oui, donc toute la philosophie grecque et religieuse est tendue vers Dieu. Philosophie grecque, un moment des sophistes et des critiques, ça c'est sûr. La philosophie a porté, la philosophie grecque a porté en son sein les sophistes, qu'on rétablit beaucoup aujourd'hui. Les sophistes est considérés comme des philosophes faisaient payer leurs cours. Mais c'est vrai, les philosophes, les sophistes faisaient payer leurs cours. Ils réunissaient les aristoïens, tout ce qu'il y avait de mieux en Grèce. Et puis ils leur donnaient des cours de rhétorique pour savoir bien parler, dérouler les gens. Mais eux demandaient l'argent. Tu vois ? Tandis que des vrais philosophes pas payer leur cours. C'est la gratuité de la contemplation. Oui. Ça qui est très étonnant. Alors il y a eu ça, et les sophistes, vous voyez, c'est juste avant Socrate. C'est devant la diversité des philosophes et des opinions philosophiques qu'on dit, vous voyez, les philosophes n'atteignent jamais la vérité. Ils sont jamais d'accord. Ce qui n'est pas une raison. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui atteigne la vérité. C'est suffisant. C'est sûr. C'est pas démocratique. Vous n'avez jamais fait un vote sur démocratiquement sur la, pour savoir où est la vérité. La vérité serait toujours battue. Et puis il y a les critiques, les agnostiques. Et ça, c'est les deux aspects qui sont cachés en philosophie grecque, mais qui existent. Que la philosophie grecque a engendré. L'autre partie, je vais aller encore plus vite, c'est l'apport de la foi chrétienne. Ce n'est plus les traditions religieuses, c'est la foi. Les traditions religieuses, c'est collectif, c'est communautaire. Tandis qu'au contraire, la foi est personnelle. Alors on peut dire que on a une autre développement de la philosophie. Qui n'est pas la conquête du logos sur le mythos, la conquête du logos sur le mythe, mais qui est la coopération de l'intelligence avec la parole de Dieu, reçue dans la foi. C'est tout à fait autre chose comme mouvement. C'est le levain qui fait lever la pâte, le levain évangélique, la révélation qui transforme l'intelligence. Vous voyez, et ça, c'est un phénomène proprement chrétien. Historiquement, on est bien obligé de le reconnaître. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire, ça existait un peu, c'est sûr. Surtout avec l'apport des écrits sapientiaux, qui est quand même un apport particulier de la sagesse. Et tous les livres de la sagesse montrent bien qu'il y a, dans la grande tradition sémite, il y a un appel vers une certaine théologie, vers une contemplation. Mais c'est beaucoup plus diffus. Ce qui est tout à fait propre à la révélation chrétienne, donc à l'évangile, c'est que la foi a assumé la pensée grecque. mystérieux. Alors que la foi, comme telle, n'a rien à voir avec la philosophie. T'es sûr? On vous demande pas si, avant de vous baptiser, êtes-vous philosophe. Avez-vous l'amour de la vérité? Pas du tout. On baptise tout le monde. Il y a des candidats baptisés qui ne savent pas très bien ce que c'est que la vérité. Et ils l'ont dans leur cœur. Qui les intéresse. Ça a été beaucoup plus l'apport moral. Mais chez certains, et surtout à cause des luttes, il y a une essence d'une apologétique. Et l'apologétique, c'est la foi qui se sert de la raison pour répondre aux adversaires. Saint Paul nous dit qu'il faut qu'il y ait des hérésies au portail de Thérèse SSC. Il faut qu'il y ait des hérésies. Pourquoi? Parce que ça réveille l'intelligence. Quand vous êtes en face de quelqu'un que vous aimez bien et qui vous contredit, vous devez répondre et juger. Et c'est pour ça que de fait est née une pensée idéologique à partir d'une apologétique. L'apport de l'intelligence, de la philosophie à la foi a d'abord été pour se défendre, pour montrer les erreurs de ceux qui attaquaient, pour montrer comment tout ce que la foi nous dit n'est pas en contradiction avec la vérité et qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et la recherche philosophique. La recherche de la vérité. Parce qu'on est devant un autre régime. Oui. Donc là, il y a un développement tout à fait différent, puisqu'on est en face de chrétiens, qui assument progressivement, d'abord, les stoïciens. Les premiers philosophes qui ont été assumés, c'est pourtant, ce sont les derniers du temps des apôtres, du temps des pères de l'Église, les stoïciens. Puis, le néoplatonisme, et après l'aristotélisme, et toujours un peu les stoïciens, les néoplatoniens. C'est très curieux, cela. Alors, je ne peux pas dire que ça nous intéresse. C'est la naissance de la théologie, de la sagesse théologique. C'est un phénomène très particulier, mais important. Et à l'intérieur de cette recherche de la sagesse théologique est née une semence d'erreur. Il faut le voir, il faut être loyal. Jésus, dans l'évangile, nous dit que la nuit, Satan sème une mauvaise graine dans un champ qui était bien ensemencé. Alors, du côté de l'erreur, du mensonge, on trouve ça. Ça ne veut pas dire que ces théologiens ont voulu désagréger la foi. Non. Mais de fait, c'est un ferment. Alors là, il y a tout un problème très intéressant. Vous voyez, comme en philosophie grecque, il y a les stoïciens, il y a les sophistes et les agnostiques. Vous allez trouver dans cette naissance de la théologie, des sous-marins dangereux, très bien armés. Rome les condamnera, mais ça leur donnera un peu plus de propagande. Chaque fois que Rome condamne quelqu'un, le succès en librairie est énorme. C'est vieux, ça. Alors vous avez comme ça des points qu'il faut mettre en lumière. Et qui sont très intéressants. Dès le XIVe siècle. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de lutte. Mais Thomas d'Aquin, qui a été, je crois qu'on peut le dire, pas parce que je suis dominicain, je le dis, Thomas d'Aquin, qui a été le théologien qui a pénétré le plus loin très sainte Trinité. Et ici, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un protestant. Ceci, Hegel est sûrement le premier théologien luthérien. Le théologien luthérien qui a été le plus loin dans sa contemplation théologique de la très sainte Trinité. Et il ajoute tout de suite, mais peut-être Thomas d'Aquin a été plus loin. J'aime beaucoup ce passage, parce que c'est quand même très étonnant. Et c'est beau, c'est honnête, c'est grand. Alors là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous voyez, cette comparaison, Thomas d'Aquin, Hegel. Et Karl Barth qui dit ça, il ajoute, de Hegel que toute la théologie luthérienne va avoir un épanouissement nouveau, une fécondité nouvelle. Ce qui est vrai, pas seulement pour les luthériens, mais ça pénètre même dans la théologie catholique. Alors, il faudrait ici montrer comment Thomas d'Aquin montre l'apport philosophique qui n'est pas à mépriser mais qu'il faut au contraire l'utiliser intelligemment pour montrer toute la richesse de la parole de Dieu. La théologie n'a pas d'autre sens que de montrer toute la richesse de la parole de Dieu et de montrer que tout ce qu'il y a dans notre foi chrétienne qui assume les traditions et qui s'appuie sur les traditions judéo-chrétiennes. Cette foi chrétienne a une richesse étonnante qui ennoblit l'intelligence par la foi. La foi n'est pas un été noir, mais la foi doit être au contraire un enrichissement.
Entre une recherche de la vérité
source de l'intelligence et de la foi. Ceci, c'est dans le contrat Gentilès. Et saint Thomas reprend la même chose hein, dans plusieurs de ses écrits et dans la Somme théologique. Et ça, c'est très impressionnant. Ça a été dit avant Thomas d'Aquin. Ça a été dit avec les pères de l'Église. Ça a été dit avec saint Augustin. Tout de suite. Mais Thomas d'Aquin le dit avec, j'allais dire, toute son intelligence qui a assumé la pensée d'Aristote. Puisque vous savez que c'est cela qu'on a condamné le plus à Thomas d'Aquin. La Sorbonne de Paris. Avant la mort de Thomas d'Aquin. A condamné Thomas d'Aquin d'avoir quitté Avicenne pour aller à Aristote. Avicenne est un musulman qui a la foi. Aristote est un païen qui cherche la vérité. Alors, on attaquait Thomas d'Aquin d'avoir quitté Avicenne pour s'appuyer sur la philosophie d'Aristote. Et cela a eu beaucoup de conséquences, parce que la Sorbonne, à ce moment-là, c'était pas n'importe quoi. C'était quelque chose. Et alors, cette condamnation a brisé quelque chose d'important pour les successeurs de Thomas d'Aquin. Il y a du plomb dans l'aile, tout le monde dit. Parce que vraiment, il y a eu là quelque chose qui a arrêté. Et dès le XIVe siècle, vous voyez un théologien franciscain plein de douceur et de bonté et de miséricorde. Miséricorde dans sa recherche de la vérité. Un franciscain à Londres qui est source alors d'une nouvelle théologie s'appuyant sur Aristote mais ne comprenant pas du tout Aristote comme Thomas d'Aquin et identifiant la métaphysique recherche de la vérité à la logique. Et la logique, ce n'est pas une recherche de la vérité, c'est une mise en ordre de ce que nous connaissons. C'est une sorte d'art intellectuel. Et je crois qu'Occam, au XIVe siècle, est source, voyez, de tout un courant anti-intellectuel, puisque c'est la logique. On ramène la métaphysique à la logique, et qui a eu une influence énorme, puisque maintenant, de plus en plus, on voit l'influence d'Occam sur la scolastique décadente, et donc sur Luther, et on retrouve des parentés entre les deux. Alors c'est intéressant, Occam, Luther, Hegel. Vous voyez, et je crois, dans une vision aérienne, on retrouve comme ça deux courants. Et le courant de Thomas d'Aquin a été repris, c'est évident. Mais il y a eu quelque chose que je juge quelque chose de désastreux. C'est qu'on a voulu de la théologie de Thomas d'Aquin extraire une philosophie, oubliant que la philosophie est une sagesse qui a son ordre propre. Alors que si vous extrayez la philosophie de la sagesse théologique de Thomas d'Aquin, vous avez des éléments, mais vous n'avez plus d'ordre. Et donc vous ne pouvez plus comprendre comment on découvre ces divers principes. Alors c'est là où la scolastique s'est dégradée progressivement. prêtre des définitions. Uniquement des définitions. Mais d'où viennent ces définitions? Comment on les acquiert? Vous voyez, la scolastique a pris une autorité philosophique, thomiste, fausse, puisque Thomas d'Aquin lui-même dit, en théologie, l'autorité, c'est la révélation. En philosophie, l'autorité est la dernière des raisons. C'est-à-dire quand vous ne savez plus quoi dire, vous citez le texte. C'est Thomas d'Aquin qui l'a dit. Et c'est ce que font les thomistes. Du moins, beaucoup de thomistes. Mais alors, au fond, ce n'est plus de la philosophie. C'est comme une logique. Une logique. On essaie de mettre un ordre dans tous ces éléments qu'on a tirés de la théologie de Thomas d'Aquin. Alors le troisième moment de cette recherche, de cette vision panoramique, ce sera avec Descartes. Le désir de retrouver une philosophie libre, indépendante de la théologie. Ce qui est légitime, mais ça a été mal fait. Ce qui a été légitime, puisque de fait, on considérait que seule la théologie donnait la vérité. Il n'y avait plus de vraie sagesse philosophique. Alors on veut retrouver une pensée autonome et libre. Je vous salue.